1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. On approche de Pâques. C'est bien de remettre un petit peu au goût du jour certaines choses. Amen. La prédication de la croix, hein, c'est ce qu'il est dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. On raconte l'histoire d'une petite fillette. Elle portait fièrement une croix tout simplement dorée avec une chaînette autour du cou. Et voilà qu'un jour, un monsieur va lui dire ceci. « Petite fille, ne sais-tu pas que la croix où Jésus mourut n'est pas du tout aussi belle que celle que tu portes ?» Elle lui répond, ou lui rajoute plutôt, « Elle était en bois, elle était rugueuse, elle était horrible. » Alors la fillette répond, « Oui, je le sais. Mais ils m'ont dit à l'école du dimanche que tout ce que Jésus touche, il le transforme. Amen. Puisse Jésus toucher votre vie ce soir. Puisse Jésus vous atteindre intérieurement afin que votre cœur soit transformé. Je ne suis pas né chrétien, mais je le suis devenu. Un jour, quand j'ai été confronté à la croix, à la réalité de la croix. Alors, tout ce que Jésus touche, il le transforme. Et c'est exactement ce que va dire l'apôtre Paul, hein, 1 Corinthiens chapitre 18, chapitre 1er, verset 18. La prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, l'incrédule ne voit dans la croix qu'un morceau de bois, eh bien, sur lequel Jésus est mort, sans pouvoir se sauver lui-même ou sans pouvoir se justifier. Certains vont dire même, pourquoi ne s'est-il pas défendu? Tout homme a le droit de se défendre, et bien sûr. Après tout, Jésus n'avait-il pas fait des œuvres qui parlaient justement largement en sa faveur? On sait ce qu'il a fait, des miracles et des prodiges. Il a tendu la main aux malheureux. Il a rendu la joie à ceux qui justement en étaient dépourvus. N'avait-il pas consolé des guéris des milliers de malades? Sans parler des milliers également qui ont été nourris miraculeusement. Et on le sait, dans le désert, il va multiplier les pains et les poissons et des foules entières vont pouvoir être nourries. On ne leur a même pas permis de venir à la barre, tout simplement, rendre témoignage en sa faveur. Même pas. On ne les a pas appelés. On n'a pas mené d'enquête, finalement. Regardez un petit peu la réaction des Juifs. Il est dit qu'ils demandent des miracles. Retenez ça. Les Grecs, eux, ils cherchent la sagesse. Et l'apôtre Paul dit, nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Je fais partie de ceux qui finalement ont cru à la folie de Dieu. Et puissiez-vous croire ce soir à la folie de Dieu, à la folie de la prédication, de la bonne nouvelle. C'est l'évangile, il veut dire bonne nouvelle. Alors oui, cette croix que Jésus a fait plus que toucher, puisqu'il en est mort, eh bien pour nous, elle a été transformée. Instrument de mort. Pour nous, instrument de vie. Elle est devenue également le symbole du christianisme. Quel est le message de la croix? Premièrement, eh bien par elle, Dieu nous dit ceci, je vous aime. Et peut-être c'est une découverte pour toi ce soir, d'entendre que Dieu t'aime. Je n'y croyais pas. Je ne croyais pas en Dieu. J'étais athée. Et puis, il y a eu la révélation de la croix. En fait, c'était la révélation de l'amour de Dieu à mon égard. Il a sacrifié son fils. Il s'est sacrifié lui-même sur le bois de la croix afin que moi je ne périsse pas, mais que je puisse vivre. Il dit, j'ai donné mon fils pour qu'il meure à ta place. Voilà ce qu'il nous dit. Hein, vous deviez être condamné, mais mon fils a été condamné à votre place. Il est mort pour nous. Il est mort aussi à cause de nous. Parce qu'il est mort à cause de nos péchés, de notre vie dissolue. Il y avait donc une condamnation sur nous. Nos péchés nous condamnaient, mais Jésus a été puni à notre place. Et c'est exactement ce que veut dire la croix. Il est mort en sacrifice. C'est-à-dire qu'il a été puni pour nous. Il a choisi la mort pour que nous, nous puissions vivre. Est-ce que les gens aiment qu'on leur dise qu'ils sont pécheurs, sales, indignes, qui sont minables? Est-ce qu'on aime entendre ça? Non. Il faut toujours une autre idée de sa personne, bien sûr. Alors la croix, bien sûr, c'est un scandale, c'est une folie pour l'esprit humain. Certaines personnes vous disent, je ne suis pas meilleur que les autres, mais je ne suis pas pire. Ben oui, je mène ma vie à ma guise, je cherche quoi? Je cherche mon bonheur. Vous avez entendu ça, je pense. Eh oui. Alors voilà ce que croient les gens. Les gens veulent un Dieu qui mette quelque part le sceau de son approbation sur tout ce qu'ils vont faire. Vous voyez, c'est comme ça. Un Dieu qui ne demande aucun changement, quelque part aucune réforme intérieure. Je vis ma vie comme je veux et Dieu doit m'approuver. Eh oui. Alors, un jour, eh bien, nous sommes amenés face à face avec cette croix, la croix rugueuse, bien sûr. Et là, nous entendons Dieu nous dire, ton péché est tellement horrible que moi, j'ai dû souffrir pour toi, à cause de toi, mais pour toi aussi, pour que tu puisses être quelque part libéré, faire une expérience de nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles. Pour les Grecs, ils veulent la sagesse. Et il dit, pour nous, c'est la puissance de Dieu. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Folie. Faire mourir son fils pour le salut des autres. Les autres, c'est qui? Ben, c'est les méchants que nous sommes. C'est les pécheurs que nous sommes. Eh oui. Alors, nous retrouvons encore ces trois catégories dans notre 21e siècle. Pourquoi la croix est un scandale pour les Juifs? Ce serait bien de réfléchir là-dessus. Jésus, voilà qu'il n'était pas le genre de Messie que les Juifs attendaient. Eh oui. Pourtant, Dieu avait annoncé sa venue pendant des siècles par des prophètes. Et il leur avait dit qu'il viendrait de telle et telle manière. Ah, il ne frapperait pas le regard. Et oui, il sortirait d'une terre desséchée comme un rejeton. Vous voyez un petit peu, il n'avait ni aspect ni beauté pour attirer le regard de l'homme. Pour dire, voilà, c'est lui. Non. Alors quand il est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils l'ont crucifié. Il dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Alors, eux, ce qu'ils veulent, eh bien, ce sont des miracles en leur faveur. Et Jésus a fait ça. Il leur a montré les miracles. Il a fait marcher le paralytique, il a fait voir l'aveugle, il a fait entendre le sourd, il a même ressuscité les morts. Il a montré sa puissance, il a fait des miracles. Mais eux, qu'est-ce qu'ils voulaient? Un Messie tout autre. C'est-à-dire qu'ils voulaient un Messie, une sorte d'amiral ou général. Vous voyez, un chef militaire, avec une puissance guerrière, tout simplement. Hein, s'il avait levé une armée. Vous voyez un petit peu, parce qu'à l'époque, il faut le dire, il y avait les légions romaines. Ils étaient sous ce joug-là. Rome était là, avec toute sa puissance. Alors, s'il avait vaincu les Romains, oui, il l'aurait suivi, c'est sûr. Ah oui, eh oui. Mais il n'a pas fait ça. Alors, pour eux, bien sûr, mourir sur une croix, ah, ça, non. Ah non, c'est pas possible. Eh oui. Alors, mourir sur une croix, bien sûr, semble-t-il, ce n'est pas la réussite, le succès, ce n'est pas une démonstration de puissance, c'est plutôt la défaite. Eh oui, c'est Pilate qui a gagné, c'est les Romains, c'est les légions romaines, bien sûr. C'est la défaite, c'est l'échec, c'est la faiblesse. Alors oui, pour eux, la croix, c'est un scandale. D'autant plus que c'était une malédiction que de mourir sur une croix. Ah oui. Alors, ils n'ont pas compris, bien sûr, comment on peut être sauvé. Pour eux, eh bien, le salut était basé sur les œuvres de la loi, les prières, les ablutions, les sacrifices. Donc ils n'avaient pas besoin d'un sauveur, puisque justement, ils étaient religieux et ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, justement, eh bien, suivant l'enseignement qu'on leur avait donné. Et la croix. La croix, pourquoi faire? Pourquoi faire la croix? Parlons des Grecs. Eux, ils cherchent la sagesse. Alors, c'était les penseurs de l'époque, hein, Socrate, Platon, Aristote. Beaucoup les lisent encore aujourd'hui, bien sûr. Par exemple, Socrate a dit, le secret d'une société qui réussit, c'est l'éducation. Donner à tous une bonne éducation, alors le monde se portera mieux. Ça vous fait sourire. On nous dit exactement la même chose aujourd'hui. L'éducation. Et même avec les moyens de communication médiatique que nous avons pour transmettre le savoir, eh bien, il faut avouer quand même que, dans ce sens-là, il y a une sorte d'échec. On ne peut pas dire que tout va bien. Eh oui. Parce que justement, tout notre savoir, eh bien, il est gâché par quelque chose d'horrible. Tout notre savoir, il est gâché par le péché. Eh oui. Le péché, qu'est-ce que c'est? C'est la désobéissance à Dieu. C'est manquer la cible. Dieu voulait un être pur, un être qui l'aimait, un être qui vive en harmonie avec lui. Et l'homme a fait le contraire. Nous sommes à l'opposé de ce que Dieu a dit. Alors les Grecs sont aussi des grands raisonneurs. Alors, un bébé ne peut pas naître d'une vierge. Ça, tout le monde le sait. Vous voyez un petit peu ça, cogiter, bien sûr. Hein. Dieu ne peut pas venir également en chair. Les dieux gardent leur distance. Un dieu tout-puissant ne permettrait pas que des vermisseaux le crucifient sur une croix. Ce n'est pas possible. S'il était Dieu, il n'aurait pas permis cela. Et pour couronner le tout, voilà qu'il serait ressuscité des morts. Alors, tout le monde sait qu'un mort ne peut pas revenir à la vie. C'est impossible. Voilà pourquoi la croix est une folie pour les Grecs. Vous voyez un petit peu? Oui. Alors, ils avaient leur conception du salut. Ils croyaient, comme dans la Bible, que toutes les âmes sont immortelles. Seulement, eh bien, pour eux, à la mort, tu pars directement avec les dieux. Je dis bien avec les dieux. D'accord? Si ta vie est assez bonne, tu restes avec les dieux. Sinon, eh bien, tu es réincarné dans un autre corps, tu as une autre chance, elle t'est donnée, voilà, tu as une autre chance. Et ainsi de suite, de réincarnation en réincarnation, eh bien, tu t'améliores. Pour finir, eh bien, voilà, tout le monde est sauvé. Et, eh bien, tu te retrouves justement avec les dieux. Tout va bien. Est-ce que c'est ça la réalité? Elle est tout autre. Mais en tout cas, raisonnant comme cela, ben oui, la croix, c'est une folie pour les Grecs. Eh oui. Pourquoi que quelqu'un devait-il mourir sur une croix pour que nous soyons sauvés? Puisque nous allons tous être sauvés n'importe comment. Beaucoup, justement, veulent croire la même chose aujourd'hui. Zidane chantait en 98, nous irons tous au paradis. Est-ce que c'était pour le foot, pour la finale de la Coupe du Monde, ou est-ce que c'était concernant notre âme? Eh oui. Qu'en est-il aujourd'hui? Je dirais que nous n'avons rien inventé de nouveau, bien sûr. Hein, nous commettons les mêmes péchés. Nos idées sont tout aussi erronées, bien sûr. Nous trébuchons sur la même croix. Hein, nous rions encore devant la sagesse de Dieu. Nous la traitons de folie, parce que c'est comme cela. Hein. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas de ça. Hein, voilà. Alors, mes amis, il ne faut pas s'y tromper. Vous savez, le Jésus qui a, je dirais, miraculeusement confondu ce qu'on appelle Saul de Tarse, un homme qui avait ses idées bien arrêtées, hein, il se faisait le défenseur de la loi de Dieu, bien sûr, sur le chemin de Damas, lui qui a été le persécuteur des chrétiens, eh bien, c'est le même Jésus qui nous confond encore aujourd'hui avec ce message qui est invariable, la prédication de la croix. Le message de la croix, je dirais, c'est le message de la vie. Amen. Alors, vous pouvez être sûr que quelquefois, eh bien, ils confondent des non-croyants en employant des méthodes qu'il nous est difficile de comprendre. Nous, vous savez, on dit, oh, ce serait bien, ça se passe comme ça, comme ça. On appelle Dieu au secours et quelque part, on veut lui imposer son schéma, sa méthode, le moyen dont il doit, eh bien, se comporter ou la manière dont il doit agir. Alors, bien sûr que Dieu n'a aucune limite. Il est omniscient, il sait tout. Omnipotent, il peut tout. Dieu n'est pas limité, je dirais aussi, par notre incrédulité. Saul de Tarse, qui va devenir l'apôtre Paul, eh bien, n'était pas dans une belle salle de réunion, écoutant eh bien, des beaux cantiques quand il s'est converti. Pas du tout. Il était sur un chemin désert. L'Écriture est formelle. Quand Jésus l'a arrêté, il était sur le chemin de Damas et il nous dit cependant, Saul respirant, encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Permettez que je vous parle de l'expérience d'un chemin de Damas plus récent. Hein? Voilà. Peut-être difficile à croire pour certains, mais en tout cas, moi, en tant que croyant, je le crois. Ce témoignage est rapporté par des responsables d'un groupe chrétien qui se concentrent sur eh bien, le témoignage de Christ, principalement parmi eh bien, le monde musulman. D'accord? Fred, il s'appelle comme cela, il habite en Afghanistan. Et il raconte cette histoire au sujet d'une femme musulmane qui était professeure d'université, donc elle avait quand même un certain savoir. Il assistait à une classe d'anglais, lui, puisqu'il était donc enseignant et volontaire. Et il va, à un moment donné, eh bien, parler de Jésus. C'est comme ça que ça s'est produit, puisqu'il avait répondu à des élèves qui lui posaient des questions sur Jésus, parce qu'il savait que lui venait d'un monde chrétien. Et il était également donc chrétien. Alors cette femme dit, je me préparais à aller dormir. Je parle de la professeure. Quand soudainement, ma chambre se remplit de lumière. Au pied de mon lit, Jésus était là, debout. Je savais qu'il était venu me tuer. Vous entendez ça? Eh oui. Voyez-vous, le jour avant, j'avais manifesté ma colère durant la classe d'anglais auprès de ce professeur qui s'était mis à répondre à des questions et à parler au sujet de Jésus à ses étudiants. Alors, j'ai laissé éclater ma colère. J'ai maudit ce professeur. Et elle dira plus tard, elle lui dira, elle lui expliquera, « Je vous ai maudit durant tout le chemin du retour. » Je suis allé à ma maison, je me suis mis dans mon lit, je priais, « Allah, je veux que tu tues ces gens parce qu'ils ne sont que pas des professeurs d'anglais, ce sont des missionnaires et je ne veux pas de missionnaires dans mon pays. Tue-les !» Il n'était pas le seul, c'est un groupe. C'est alors qu'elle a eu la vision de Jésus, debout au pied de son lit. Et elle dit, « Je savais qu'il était venu me tuer parce que je demandais qu'Allah tue ses ouvriers. » Alors, je suis sorti du lit, je tremblais, j'ai rampé au pied de Jésus, attendant qu'il me tue. Vous vous rendez compte? Elle était convaincue que ça allait se passer comme ça. Et comme je tremblais à ses pieds, j'ai commencé à ressentir de la chaleur sur tout mon être. J'ai commencé à me sentir lavé par de l'amour sur tout mon corps, l'amour et la pitié. Je l'ai regardé, a-t-elle dit. Il était si beau. Je devais lui donner mon cœur. Aujourd'hui, cette femme, professeure d'université, est une chrétienne. Elle le raconte avec ferveur à ses étudiants que Jésus est vrai, qu'il est le sauveur, qu'il est le Seigneur qui peut leur donner le vrai bonheur. Alors voyez-vous, il peut y avoir beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Cette femme ne comprenait pas. Elle avait son savoir, elle avait sa religion, avec toute son intelligence, ça lui échappait. Voilà, il faut se souvenir d'une chose, c'est que Dieu a accompli ce qui était impossible quand il est allé à la croix du calvaire. Amen. Et là, il est mort pour que nos péchés soient effacés. La Bible nous dit que le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. C'est-à-dire qu'il a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous sauver. Je peux faire le plus d'actions possibles que je peux, mais ce n'est pas ce qui, quelque part, me justifiera auprès de Dieu. Ce qui me justifie, c'est de passer par celui qui est monté sur le bois de la croix. Ce qui me justifie, c'est simplement d'accepter pour moi-même le sacrifice de son fils. Amen. Alors oui, on ne peut pas tout expliquer. Moi, je sais que c'est vrai. Je l'ai vécu. C'est mon expérience. Voyez-vous, l'invitation que Dieu nous offre, c'est d'aller à la croix, voir celui qui souffre, qui meurt là, parce qu'il est mort sur le bois de la croix. L'invitation, c'est de vous soumettre à celui qui dit tout simplement, « Je n'aime pas ton péché, mais je suis prêt à te pardonner. » Amen. Et pour te prouver que je suis sincère, je paye le prix. Je choisis le sacrifice. Et si tu l'acceptes, je t'accorde mon pardon. Amen. Je te pardonnerai, je t'aimerai pour l'éternité. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une belle histoire que la prédication de la croix, folie, pour ceux qui périssent, c'est dommage, hein? Mais pour nous qui sommes sauvés, puissant de Dieu. Amen. Je l'ai rencontré. J'ai expérimenté son pardon. Alléluia. Je suis heureux de vivre. Avant, quelque part, j'étais un survivant. Hein. Je survivais. Aujourd'hui, je vis avec un grand V. Mon nom commence par un V, mais ce n'est pas pour ça. Hein. La vie, elle dépend de ce que je suis en paix avec Dieu ou je suis quelque part en guerre avec Dieu. Amen. Il peut faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Un jour, il m'a convaincu, je ne suis pas le seul, hein. Il me regarde tout cela, mais... Oui, vous avez raison. Mais c'est comme ça. Un jour, nous l'avons expérimenté. Nous l'avons rencontré, comme on dit. Et nous savons qu'il est vivant, qu'il est vrai. Alors, je souhaiterais ce soir que la prédication de la croix ne reste pas une folie pour toi, mais qu'elle devienne une puissance, afin que tu sois sauvé, pardonné, libéré. Amen. Que tu fasses une expérience de nouvelle naissance. Alléluia. On va fermer nos yeux simplement. J'aimerais prier. Demander au Seigneur de vous visiter. Quelle grâce ce soir de pouvoir parler, Seigneur, avec autant d'un entrain de la prédication de la croix. Elle a été pour moi une puissance, puisque j'ai été sauvé. Je fais aujourd'hui partie de ceux qui sont les héritiers de ton royaume, Seigneur. Je pense à ceux et celles qui n'ont pas encore fait cette démarche de foi, ce pas de la foi, cette rencontre personnelle également avec toi. Seigneur, tu es celui qui nous confond. Que de foi. Tu m'as confondu. Je ne suis pas le seul. Je sais ce que tu peux faire ce soir dans le cœur, la vie, d'amis qui sont là au milieu de nous. Viens, Seigneur. Convainc. Convainc, Seigneur, que tu es le chemin de la vie, le chemin de l'éternité. Que ton sacrifice sur la croix, c'est pour ces amis qui sont là et qui ont besoin d'expérimenter ton pardon. Merci de souffler de ton vent céleste, Seigneur, et de convaincre, de confondre, et Seigneur, surtout, de sauver pour la gloire de ton nom.